En ce mois de l'arbre et des forêts au Québec, aujourd'hui, on rend hommage à la forêt boréale. Pour parler plus spécifiquement de la forêt boréale qui nous entoure sur la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, je me suis entretenue avec André Arsenault, écologiste forestier pour le Service canadien des forêts et le Centre de foresterie de l'Atlantique. Monsieur Arsenault œuvre à Terre-Neuve depuis 2010 et planche sur plusieurs projets de recherche. En introduction à l'entrevue que je m'apprête à vous diffuser, il définit ce qu'est la forêt boréale.
Bien, la forêt boréale, c'est un biome, en fait. C'est un écosystème qui est très, très vaste. C'est le plus gros biome terrestre au monde. C'est un écosystème qui est caractérisé par des températures plus froides, des saisons de croissance qui sont plus courtes que les écosystèmes tempérés. Puis, ça recouvre la majorité là, de l'hémisphère nord. Ça va jusque de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Eurasie. Alors, vous allez, par exemple, de l'Alaska, tout le Canada, jusque des régions européennes de Scandinavie et puis la Russie, la Sibérie. Puis ça va jusqu'au Kamtchatka, qui est la partie la plus est là, de la Russie.
Est-ce que donc toute la côte nord se trouve dans cette zone boréale-là, de la forêt boréale?
Oui, en fait, la forêt boréale est entre la forêt tempérée au sud, puis la toundra au nord. Et puis, sur la côte nord, c'est surtout la pessière, ce qu'on appelle le domaine de la pessière à mousse, qui est dominant là, dans cette région-là. Mais là, il y a des gradients, il y a plein de gradients environnementaux. Comme au Canada, la forêt boréale de l'Est, au Québec, dans le Labrador, est quand même assez différente de celle de l'Ouest. Celle de l'Ouest, c'est plus sec, il y a plus des grands incendies plus fréquents, tandis qu'à l'Est, c'est un petit peu plus humide. Les feux sont importants aussi, mais c'est moins fréquent là, que dans l'Est du Canada. Puis même sur, quand vous regardez la côte nord, si vous passez par exemple de Pécomo en allant jusqu'à Fermont, mais même là, il y a des grandes différences. Quand vous êtes, par exemple, au sud, c'est sûr que c'est plus chaud. Alors, il va y avoir des espèces que vous ne retrouverez pas dans le nord. Beaucoup d'espèces comme le bleu jaune, des choses comme ça. Puis quand vous montez, par exemple, dans la région de Manique, à la base des monts Gros, bien ça, c'est des forêts qui sont très, très humides. Là, vous retrouvez des sapinières qui sont vraiment âgées. On a trouvé des espèces de lichens qui poussent sur les arbres là, qu'on n'avait pas trouvé au Québec avant dans cette région-là. Puis l'autre région de la Basse-Côte-Nord, où ce que vous êtes, bien là, c'est encore là, il y a des différences associées au dépôt de surface. Par exemple, sur la côte, vous avez des régions de ce qu'on appelle des landes à arbustes et à mousse. C'est des régions qui sont très rocheuses. Et puis, quand vous montez au nord, bien, vous avez beaucoup de tourbières, des grands plans d'eau, puis des forêts qui sont surtout résineuses dans ce coin-là.
J'ai lu que la forêt boréale n'était pas si ancienne que ça. Quel âge a la forêt boréale, en fait?
De façon générale, ce qui s'est passé, c'est que quand la calotte glaciaire a fondu, bien, là, la végétation a commencé à s'établir. Et puis, plus que vous montez au nord, plus que la fonte de la calotte glaciaire est récente. Alors, de façon générale, on parle environ de 5000 ans quand la forêt boréale a commencé à s'établir. Mais plus que vous montez au nord, plus que la forêt boréale va être jeune de ce point de vue-là. Mais quand vous regardez au niveau de l'âge des arbres ou l'âge des forêts, bien là encore, il y a des gradients intéressants entre l'ouest du Québec, par exemple, où les feux sont plus fréquents parce qu'il y a des. C'est généralement un peu plus chaud, il y a plus de foudre, tandis que la région de l'est, la côte nord, bien là, ça va être plus influencé par l'océan Atlantique, les mers du Labrador et l'humidité relative va être plus humide dans ce coin-là. Donc, les feux sont moins fréquents et donc les forêts sont plus vieilles dans ce coin-là.
Très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la forêt boréale comme espèce? Si on regarde peut-être la côte nord-est, disons-le, pour cibler un peu.
OK, ben comme je disais, vous êtes dans le domaine, ce qu'on appelle le domaine bioclimatique de la pincière à mousse. Donc, pincière, ça veut dire, ça réfère aux épinettes noires. Donc, ça va être l'espèce, l'essence forestière dominante. Mais là, il va y avoir d'autres espèces, voilà, le sapin baumier. Souvent, on va se retrouver dans des endroits un petit peu plus humides ou dans des endroits où ce que les feux ont été moins fréquents. Et il va y avoir des pins gris, mais les pins gris dans l'Est sont beaucoup moins abondants que dans l'Ouest. Puis là, à ce niveau-là, vous allez avoir, ça va être souvent associé après des feux, c'est souvent là que le pin gris va s'établir. Là, je ne suis pas certain exactement sur la basse côte nord, mais sur la côte nord, en général, d'autres espèces d'arbres sont importantes. On va voir le peuplier faux-trembles, le bouleau blanc. Le peuplier faux-trembles, c'est une espèce intéressante parce que le pH de l'écorce est plus basique. Il y a un pH plus élevé que les essences de conifères, par exemple. Alors là, on va retrouver des lichens qu'on ne va pas retrouver sur le conifère de façon générale. Là, il y a poussières ou lichens qui ont besoin d'un pH plus élevé. Et puis, il y a d'autres espèces qu'on va retrouver, comme vous savez, le caribou des bois, c'est une espèce très importante où on a des craintes un peu au niveau des populations, pas sûr sur la côte nord, mais vous allez avoir de la marde d'Amérique, des ours noirs, des porcs-épics. Finalement, il y a beaucoup des espèces qui sont caractéristiques de la forêt boréale que vous allez trouver là. Au niveau des plantes vasculaires, j'ai lu récemment, il y a probablement environ entre 600 et 700 plantes qui ont
Quand
été
même.
recensées. Puis au niveau des lichens, je n'ai pas de chiffre exact. Moi, j'ai fait un inventaire à blanc sablon. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des roches qui ont encore un pH un petit peu plus basique. Alors, il y a des espèces qu'on ne trouve pas souvent dans ces écosystèmes-là, sur les roches, mais là, à cause de ces roches plus basiques-là, on va retrouver des cyanolichens comme les espèces de Lobaria, Pulmonaria, Lobaria scrobiculiata et d'autres espèces comme ça. Et une autre chose qui influence le pH sur cette partie-là de la côte, j'ai remarqué qu'il y avait j'ai le nom anglais des urchins qui viennent de la mer. Les oiseaux, finalement, ils vont prendre ces échinodermes-là, les crustacés, puis ils vont les jeter sur le sol pour les manger. Puis là, les restes, ça contient beaucoup de calcium qui va changer le pH de cet environnement-là.
Est-ce qu'on peut en profiter justement pour définir ce qu'est du lichen?
C'est une symbiose entre une algue et un champignon. Et parfois, ça va être une symbiose avec même plus qu'une espèce, comme je parlais du Lobaria pulmonaria, qui est une super belle espèce là, de cyanolichen. Mais ça, c'est un lichen où il y a une symbiose entre une algue verte et un champignon et des cyanobactéries. Mais sur la côte nord, comme je parlais des landes à mousse et à mousse que j'allais retrouver là, sur les roches sur le bord du littoral, ben là, vous allez pas avoir beaucoup d'espèces. Vous allez sans doute remarquer, il y a beaucoup de couleurs. Il y a des espèces qui vont être associées là, aux roches. Des espèces d'Ombilicaria, par exemple, sont des espèces ça ressemble à des talles, ils sont comme foliaires, mais ils sont très secs. Et puis, il y a d'autres espèces qui sont crustacées, finalement, Ils sont directement attachés aux roches. Ça ne ressemble pas à des feuilles ou des talles. C'est directement là, sur la roche.
Donc, on peut dire que le lichen fait partie de la forêt boréale.
Oh, absolument. Puis en fait, ce qui est intéressant, l'automne dernier, j'ai fait un grand transect où on a fait des inventaires de lichens là, à partir de la péninsule Nord, Terre-Neuve, Grand-Sablon, jusqu'au Labrador, puis en passant par Fermont, puis aller jusqu'à Kamanek 5. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé plein de nouvelles espèces parce que c'est des régions qui ont été inventoriées beaucoup pour les lichens. Donc, par exemple, moi, puis une autre équipe, qui faisait d'autres travaux, on a trouvé l'Aeroderme boréal, qui est une espèce qui est considérée là, à risque de façon mondiale. Puis on n'avait aucune idée qu'elle se retrouvait au Québec. Alors, on a retrouvé cette espèce-là pas loin des monts, justement, dans des vieilles sapinières. Puis j'ai même retrouvé à Labrador City. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une autre fenêtre là, sur la forêt boréale. Puis la forêt boréale, il y a beaucoup d'écosystèmes qui sont importants pour ces lichens-là.
Quelle est l'importance de la forêt boréale au Québec, au Canada, voire dans le monde? Bon, on imagine que ça agit un peu comme un poumon là, sur la planète. Est-ce que c'est le cas?
Oui, effectivement, il y a plusieurs rôles importants de la forêt boréale dans le monde et au Canada, c'est une des régions où on trouve une des plus grandes étendues de la forêt boréale. Et donc, la régulation du climat, ce qui devient le plus important avec les problèmes là, de changement climatique. Aussi, il y a le stockage de carbone qui est relié à ça aussi, qui est très important pour la forêt boréale. Puis, on parle dans la forêt boréale, c'est pas seulement les zones qui ont des arbres, mais aussi les tourbières, par exemple, sont super importantes pour le stockage des carbones. C'est aussi des régions où on a encore des peuples autochtones, des régions, des populations locales qui sont vraiment encore en symbiose avec leur environnement. Et ça, c'est une chose qui est super importante. Nous, de plus en plus avec nos recherches, on essaie de travailler avec les peuples autochtones pour faire l'intégration du savoir autochtone avec la science. Ça, c'est super important. Un autre enjeu qui est très important pour la forêt boréale, c'est la biodiversité. Il y a deux choses à ce niveau-là. C'est un peu une frontière au niveau du savoir de la biodiversité, parce que, comme je disais, il y a des régions encore au Québec où on aurait cru qu'au nord de Manic, on savait tout sur la biodiversité, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans ces régions-là. Et l'autre aspect, c'est que même si on a eu du développement, il y a encore des grandes zones qui demeurent relativement intactes. Et comme vous savez, il y a de plus en plus de pression pour développer ces régions-là. Donc, la biodiversité, c'est un autre de ces enjeux-là là, qui est très, très important.
Est-ce qu'on peut dire que la forêt boréale se porte bien? Est-ce qu'elle est en santé présentement?
Bien, en général, oui. Au Québec, on a quand même encore des régions éloignées, mais il y a quand même des indicateurs qui commencent comme on dit, des sentinelles boréales, si vous voulez, comme le caribou, où ça va pas super bien dans certaines régions. Alors ça, c'est un problème, puis c'est un de ces indicateurs précurseurs qui nous dit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, il faut qu'on pense à peut-être essayer de changer un peu là, comment est-ce qu'on aménage, comment est-ce puis peut-être encore de façon plus importante, comment est-ce qu'on va planifier nos interventions dans les forêts boréales? Parce que un des facteurs les plus importants, c'est ce qu'on appelle les effets cumulatifs. Parce que là, avec les changements climatiques, il va vraiment avoir plus de feu, plus de perturbations. Et quand vous mettez ça en plus des perturbations anthropiques, soit que ce soit le développement hydroélectrique, la foresterie, les mines, bien, ça a des effets cumulatifs sur les écosystèmes. Alors, ça devient super important de faire des choix judicieux dans l'aménagement du territoire. Pour ça, il faut penser à plusieurs échelles. Hein. Au niveau forestier, souvent, on pense à l'échelle de peuplement. Mais là, il faut vraiment penser à l'échelle là, des paysages, les échelles régionales, et même, je dirais, aux échelles nationales et globales. Parce que dans le fond, on a une planète. Alors,
Ouais.
il faut en prendre soin.
C'était André Arsenault, écologiste forestier pour le Service canadien des forêts, qui nous en apprenait plus sur la forêt boréale. On vous rappelle en terminant que Tête à la baleine célébrera le mois de l'arbre et des forêts le 17 juin par une activité de plantation d'arbres mise de l'avant par le regroupement Diversification économique de Mécatina. C'était vos informations locales présentées par La Voix du Large en collaboration avec l'initiative de journalisme local.